Agir pour le futur, le magazine de l'impact proposé par Ecofi, présenté par Fabrice Coustet.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Actif pour le futur, le magazine d'impact proposé par Ecofi. Je vous rappelle une série de 6 podcasts à suivre tous les mois sur les enjeux, les impacts et les opportunités des transitions. Et ce mois-ci, eh bien, un nouvel épisode passionnant. On le sait, la crise du Covid a bouleversé nos habitudes, qu'elles soient de travail ou de consommation. Et la vie normale, heureusement, est en train de reprendre petit à petit. Les différentes restrictions sont levées. On se pose aujourd'hui la question, est-ce que le Covid a accéléré la demande de bien-être? Et pour répondre à cette question, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est exactement que le bien-être, qu'est-ce qu'il représente chez les individus, qu'est-ce qui a changé chez nos concitoyens, que ce soit à la maison, au travail ou dans nos loisirs. Ces changements sont-ils durables? Va-t-on vers des nouveaux schémas de vie? Et si oui, quelles sont les entreprises qui vont en bénéficier? Et peut-être comment profiter finalement de ces mutations pour répondre à l'ensemble de ces questions ou tenter d'y répondre? Nous sommes en compagnie de 2 spécialistes. Bienvenue à Karen Georges. Bonjour Karen. Vous êtes gérante action chez Ecofi. Et on est également en compagnie de Claudia Sénic. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Professeure d'économie à la Sorbonne, directrice de l'Observatoire du bien-être, car oui, cela existe. Et puis auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont l'économie du bonheur, le plus récent, Les Français et l'argent, et le dernier, Claudia,
L'avant-dernier, Bien-être au travail, ce qui compte.
Très bien. Comme d'habitude, on est en compagnie également de Morgane Kiné. Bonjour Morgane.
Bonjour Fabrice.
Et justement Morgane, nous allons commencer l'émission avec vous et avec votre édito.
Agir pour le futur, l'édito.
Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais vous dire, là, tout de suite, ne vous aura évidemment pas échappé. Les différents confinements, les masques ou encore la distanciation sociale ont bouleversé nos vies depuis maintenant plus d'un an. Dans cette crise du Covid, le quotidien des Français, pour ne parler que de nous, a été mis à mal. J'en veux pour preuve une enquête Coviprév, lancée par Santé publique France en mai 2020, qui nous dit que nous serions 21% à souffrir d'un état anxieux lié à la situation sanitaire mondiale. Alors, dans ce contexte, la situation épidémique et les mesures qui ont été prises pour la contrôler ont affecté de façon importante notre bien-être.
Mais alors justement, Morgane, quand on tend par bien-être?
Eh bien, Fabrice, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'on ne présente plus, le bien-être peut être défini comme un état agréable, mais transitoire, procuré par la satisfaction des besoins du corps et par la tranquillité de l'esprit, état dans lequel on est débarrassé, seulement pour quelques instants, du fameux stress. Alors, est-ce que cet état de stress nous a poussés, tous au moins une fois, je pense, à nous interroger sur nos fondamentaux? Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que je suis épanouie dans cette vie? Est-ce que mon travail a du sens?
Alors justement, à propos de travail, qu'est-ce que la crise a changé?
Eh bien, Fabrice, à propos du travail, on l'a tous vu, la crise sanitaire a été propice à la mise en place de nombreux changements, tant en matière d'organisation que de technologie. Les équipes, l'encadrement, nous avons tous dû nous adapter à de nouveaux outils. Tenez, un chiffre que je trouve très parlant, c'est 327%. 327%, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires pour l'application Zoom en 2020. Désormais, on se parle par écran interposé, même une fois revenu au travail. C'est dire si nos modes de fonctionnement ont évolué, que ce soit à la maison, au bureau ou dans nos loisirs. Alors, comment envisager le monde d'après? Son rapport à soi, son rapport aux autres? Faut-il tout balayer du monde d'avant ou bien améliorer l'existant? Et à quoi ressemblera notre monde dans quelques mois? Alors personnellement, j'ai bien envie de voir le verre à moitié plein, d'être optimiste, comme Martial Liu, à qui l'on doit « Et si la crise sanitaire était une chance ?» et qui pense que la crise va aboutir sur quelque chose, je cite, « de moteur ». Il y a, selon lui, toujours eu des éléments qui ont déstructuré un peu la société et derrière, des technologies qui étaient là, qui étaient prêtes, dormantes, se sont révélées. En réalité, le monde s'accélère quand il s'arrête.
Merci Morgane. Tout de suite, on passe au débat.
Agir pour le futur, le débat.
Le débat en compagnie de nos spécialistes Claudia Sénic, Karen Georges. On démarre avec vous, Claudia. On a eu un aperçu de ce qu'était le bien-être, mais comment on le définit? Ça sonne plutôt hédoniste, hein, le bien-être.
On mesure en réalité 4 dimensions principales du bien-être ou du bonheur même. La satisfaction dans la vie, tout d'abord, qui est quelque chose d'un peu cognitif, c'est-à-dire un jugement qu'on porte sur sa vie, est-ce qu'on en satisfait, est-ce que ça remplit, ça répond aux attentes qu'on en avait au début. Après, un côté plus hédoniste, comme vous dites, c'est-à-dire au cours de la semaine dernière, est-ce que je me suis senti souvent heureux, détendu, content, ou au contraire anxieux, triste, énervé. Et puis enfin, la question du sens. Est-ce que ce que je fais dans ma vie a du sens, de la valeur? Donc ça, c'est les dimensions qu'on mesure en posant les questions aux gens. Mmh. C'est du déclaratif. Et après, on analyse ce qui fait que les gens sont plus ou moins heureux.
Et voilà. Alors, c'est vrai que c'était pas évident de se sentir heureux avec cette crise pandémique, hein, qui nous a touchés, qui nous a cloués un peu dans nos maisons. Et justement, on va attaquer le sujet avec la maison. Qu'est-ce qui a changé dans la maison, dans notre rapport justement à notre environnement direct, c'est-à-dire notre home sweet home, Karen George?
Ah, tout à fait. En fait, la tendance du confinement qui s'est étalé a fait qu'il y a un besoin de confort à la maison. Donc, en anglais, ils appellent ça le home improvement, d'avoir finalement un confort chez soi, parce qu'on est très souvent chez soi. Donc, Morgan et Cody parlent du bien-être. Donc, il y a un besoin finalement d'avoir toutes les cases cochées chez soi. Donc, que ce soit au niveau du confort au travail, au niveau de la cuisine, de ce que les gens peuvent faire s'ils ont un jardin, etc., donc à l'extérieur de chez eux. Et donc, il y a de nouvelles habitudes qui se sont créées, avec par exemple du bricolage, justement la cuisine, donc l'électroménager s'est très bien comporté pendant la crise, ou alors tout simplement passer justement du temps en famille, donc quelque chose de plutôt qualitatif, ce qui a été justement une vraie rupture avec la période pré-Covid.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais finalement habité autant chez soi, puisque bah, généralement, voilà, ça peut être un lieu de transition, puis on se retrouve le week-end ou le soir. Là, on y était toute la journée, il fallait repenser peut-être des espaces, vous le disiez, ce fameux bricolage, le do-it-yourself, comme disent les anglo-saxons. Ça veut dire que pour vous, qui êtes gérante, qui observez ces tendances, il y a aussi des opportunités. Quelles sont les sociétés qui ont bénéficié de cet essor du bien-être à la maison?
Alors, lorsqu'on pense au bricolage, il y a un groupe allemand, par exemple, qui s'appelle Hornbach. Donc, c'est un peu un sorte de Castorama allemand. C'est justement essentiellement du bricolage. Aux États-Unis, vous avez des groupes comme Lowe's ou Home Depot. Ils ont connu des variations de chiffre d'affaires, donc des hausses de 2 voire 3%. Certaines entreprises ont même donné des bonus exceptionnels à leurs employés, comme Lowe's, vu que l'année a été exceptionnelle. Mmh. Donc, elle a tellement été exceptionnelle qu'ils ont même été en rupture de stock de nombreux produits. Et donc, c'est là que je peux faire le parallèle avec tout ce qui est jardinage. Donc, Husqvarna, qui est un groupe suédois, vend notamment des tondeuses à gazon. Et là, également, c'est une variation à deux chiffres. C'est assez exceptionnel et c'est quelque chose qui pourrait perdurer même après la fin des mesures de restriction, parce qu'il est quand même assez improbable de changer ses habitudes alors que pendant un an, on bricole.
Ouais. Voilà. C'est dans la cuisine aussi qu'on s'est découvert des talents de cuisinier. Tout le monde s'est mis à faire son pain, ses pâtes, etc. Là aussi, il y a des sociétés qui ont tiré leur épingle du jeu dans l'électroménager.
Tout à fait. Donc là, je donne un exemple français, peut-être un peu plus connu pour tout le monde, comme Seb. Donc pour l'anecdote, Seb a dit que ses meilleures ventes concernaient les machines à faire du pain. Et justement, on va dire, hormis tout ce qui était lié, par exemple, au repassage, parce que nous ne sommes pas allés au travail, donc pour tous les autres produits qui sont liés à la cuisine, les ventes ont été exceptionnelles dans tous les pays développés essentiellement, et aussi en Chine, mais avec un décalage, parce que comme on le sait, la pandémie a commencé plus tôt chez eux.
Le bien-être, c'est aussi un corps sain dans un esprit sain, un mens sana in corpore sano. Claudia Sénic, c'est vrai que là aussi, on s'est aussi recentré sur son intériorité et puis se faire du bien, même si on est cantonné à la maison, par la danse, par le jeu, par là aussi du yoga ou de la gym, même si c'était devant son écran ou devant sa télé.
Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a les deux. Dans le bien-être, il y a les aspects individuels, c'est-à-dire mon travail, mon logement, comme on a dit, ma santé, etc. Mais il y a aussi un aspect collectif, c'est-à-dire mon environnement immédiat, ce qui se passe dans la commune dans laquelle je vis, comment sont les gens autour. Et cette crise a quand même fait surgir de manière beaucoup plus consciente l'idée que de l'interdépendance. C'est-à-dire, je porte un masque pour me protéger, mais aussi pour protéger autrui. Je me vaccine pour me protéger, mais aussi pour protéger les autres et empêcher que l'épidémie et le virus mutent. Donc, il y a à la fois ce repli complet pendant des mois et des mois, avec la qualité de vie qui augmente, et en même temps, la conscience plus vive d'être dans le monde, dans la société.
Rapidement, on a touché limite quand même d'être en vase clos. Je pense aux apéros Zoom, par exemple, ça a eu un succès limité, c'est-à-dire on s'est dit quand même, bon, c'était quand même moins sympathique. Là aussi, il y a quelque chose qui manquait, il y a une dimension rapidement qui va peut-être manquer à certaines personnes.
Ben, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le fait d'être en présence les uns des autres, c'est le hasard et l'imprévu. Et notamment, quand on discute dans un apéro, c'est de se couper la parole. En tout cas, en France, c'est important. Et sur Zoom, c'est pas possible. Donc, en fait, il n'y a aucune spontanéité. Et la plupart des choses créatives qui se passent entre les gens sont imprévues.
C'est un mot anglais. Hein.
Serendipity, voilà. Et ouais. Ça, c'est vrai dans le travail aussi, en fait.
D'accord. Alors, très bonne transition. On va parler aussi de ce qui s'est passé au bureau. Alors, première chose, on importe le bureau dans sa maison. Là aussi, ça a complètement changé nos manières d'évoluer. Ça va peut-être être durable, d'ailleurs, ces tendances, hein, puisqu'on parle beaucoup de télétravail qui serait pérennisé. Qu'est-ce que vous avez observé, Karen Jean, justement, sur ce bureau qui s'est déplacé ?
Déjà, quelque chose d'assez exceptionnel. Depuis de nombreuses décennies, vous avez un déclin de tout ce qui est équipement de bureau. Donc, c'est un marché qui est mature, qui n'avait plus de croissance. Et là, avec le Covid, il a fallu équiper quasiment toute la population de bureaux x2, donc bureaux et chez soi. Et donc, les ventes de périphériques, d'ordinateurs, etc. ont explosé. Donc, des groupes suisses comme Logitech en ont largement profité. Et on peut reciter les boîtes de tech. Donc vous parliez d'accélération, Morgan en parlait tout à l'heure. Le PDG de Microsoft a quand même réaffirmé qu'on a eu en l'espace de 2-3 mois l'équivalent de 10 ans de croissance. Donc ça a justement accéléré les besoins informatiques chez soi. Et c'est quelque chose qui va perdurer. Il est peu probable qu'on retire tout cet équipement informatique.
Alors voilà, le bureau qui s'est déplacé. Si on décrit ce que c'est que le bien-être au travail, alors il y a bien sûr ce phénomène QVT, qualité de vie au travail, beaucoup de gens qui sont engouffrés dans la brèche, mais justement, quand ça s'arrête, est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est que le bien-être au travail au bureau ?
Alors, il y a plein de typologies différentes, mais moi je pense qu'il y a 4 dimensions essentielles. La première, c'est l'autonomie. De pouvoir s'organiser comme on veut. La deuxième, c'est les perspectives de progression, parce qu'on ne vit pas que dans l'instant, mais on vit aussi des perspectives que l'on peut percevoir. La troisième, c'est les relations avec les autres, le climat de l'entreprise, quoi, la confiance, le capital social, on peut dire. Mmh. Et puis, la dernière, c'est encore une fois la question du sens. Est-ce que ce que je fais dans l'entreprise, ça a du sens pour moi, ça a de la valeur, est-ce que... Voilà. De ce point de vue-là, le télétravail n'était pas très prometteur, a priori, parce que... les perspectives de progression de la carrière quand on est à distance et qu'on voit personne, c'est pas évident de se faire. Enfin, c'est pas évident. Les relations avec les autres, là encore, il manque l'informel et tout ce qui est plaisant. Le contrôle, peut-être, parce que du coup, on peut s'organiser comme on veut, et notamment en termes de temps privé, temps public. Mais finalement, c'est pas si évident parce que dans certains cas, il y a une espèce de contrôle numérique qui est mis en place par l'entreprise sur ce que fait le salarié, sur son écran, etc. Et puis même ça, il y a cette espèce de porosité entre vie privée et vie publique qui fait qu'on est peut-être un peu débordé.
Oui.
Et la question du sens, de même, si on est chez soi, est-ce qu'on se représente encore bien comme étant dans l'entreprise ? L'identité au travail qui fait que quand je vais au travail dans mon bureau, je me sens au travail, je m'identifie à ça, je suis comme dans un rôle, ça se perd un peu. Donc a priori, c'est pas évident. Donc, et pourtant, dans les enquêtes qu'on a avec le recul, parce que c'est vraiment un passage à l'échelle là, par rapport au télétravail qui avant représentait 4% des travailleurs. Pourtant, malgré tout, les gens, effectivement, n'ont pas forcément envie de revenir au travail, en tout cas à temps plein, c'est sûr.
D'accord.
Et ça, c'est peut-être à cause de l'équilibre entre là, travail et vie. Et notamment la question des transports.
Ouais, on se dirigerait du coup vers un modèle hybride peut-être. On parle de 1 jour, 2 jours de télétravail. On verra évidemment dans les mois à venir. Alors il y a certaines entreprises qui ont complètement changé leur approche. Hein. Je crois que des grands de la tech d'ailleurs ont carrément donné le choix à leurs employés. Tout bureau, tout télétravail ou un modèle hybride.
Exactement. Vous avez même de grandes banques qui ont choisi un modèle hybride type UBS. Et juste pour rebondir sur le bien-être, quelque chose d'assez récent, des grandes entreprises américaines ont offert des jours de congé à leurs salariés. Des groupes comme Marriott, des groupes de tech en Irlande même, donc les salariés ont eu des congés offerts par le groupe. Donc on voit bien que le bien-être et la productivité sont très liés. Si je peux donner un chiffre sur le sujet du travail, l'anxiété aux États-Unis, elle est passée de 8% à peu près avant Covid à un niveau de 25,5% de la population salariée post-Covid. C'est quand même substantiel. Et donc on voit que ce modèle hybride, malgré ses limites, comme disait Claudia, reste quand même, a priori, le modèle privilégié.
Il faut dire que, justement, on a parlé de la maison, mais le bureau aussi, c'est une espèce de bulle. Et parfois, on peut aussi avoir un meilleur environnement au travail que chez soi.
Oui, j'ai assisté à un séminaire il y a 3 semaines d'un anthropologue qui s'appelle Pascal Diby, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'anthropologie du bureau. Donc le bureau à travers les âges, et on peut suivre l'évolution de la société française tout entière à travers cette notion de bureau en tant que meuble, en tant que pièce, en tant que bâtiment, en tant qu'entreprise. Mais il a dit un petit détail qui m'a vraiment frappé, c'est que le bureau pour certaines personnes, c'est un hôtel 3 étoiles. Enfin, on peut même dire c'est 4 vrai. Étoiles parfois. Parce que c'est propre, c'est entretenu par d'autres, c'est calme.
C'est chauffé en hiver, c'est frais en été.
Voilà. Donc il y a un certain confort. Alors ça dépend évidemment du degré de confort que possèdent les gens chez eux. Mais il y a ça quand même. Et donc là, peut-être que ça va constituer une force de rappel. Sinon, moi, je me disais qu'il y aurait peut-être une cartographie qui va être faite par les entreprises des tâches qui sont télétravaillables ou pas. C'est-à-dire, on va continuer à télétravailler pour les réunions un peu formelles. Par contre, on va se voir pour tout ce qui est un peu plus créatif.
Créatif de lien aussi,
créatif de lien, créatif d'idées, contrat, négociation.
Qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Qu'est-ce qu'on veut garder ou pas de cette période? En tout cas, on a l'impression que là, on vit, Claudia Sénic, comme un épisode de libération. On est content de retrouver nos habitudes, que ce soit au café, à l'extérieur et même dans les séminaires.
Oui, là, c'est vraiment les années folles. Donc, on a été privé, on a été restreint. Maintenant, on rattrape toute la consommation dont on a été privé auparavant. Les vacances, la fête, les relations sociales, les voyages. Donc, il y avait beaucoup d'utopie pour le monde d'après. Pendant le confinement, les gens déclaraient dans les enquêtes qu'ils étaient prêts à renoncer à prendre l'avion, à manger uniquement du local, etc. Et tout ne se vérifie pas. C'est-à-dire que pour ce qui est d'avoir une... Justement, je pense que la conscience du danger et des menaces est plus vive, même si c'était une crise purement sanitaire. En fin de compte, on a l'impression qu'on est plus sensible aux différents types de dangers, à la mondialisation, etc. Donc, je pense que ça va rester. Donc, par exemple, les gens ont une demande d'alimentation de qualité beaucoup plus forte. Il y a des pratiques qui ont un peu changé. Il y a quelque chose qui me frappe, en fait, c'est le rapport aux animaux. Il y a énormément de littérature qui sort en philosophie, en littérature, en sciences sociales, sur le besoin de renouer avec les autres, le reste du vivant, comme si finalement, ce danger, enfin, cette crise montrait à quel point il fallait quand même un peu redescendre sur terre et les animaux domestiques, peut-être qu'on en parlera, mais voilà, comme s'il fallait reconstituer la chaîne.
Ouais, c'est vrai qu'Anne George, dans le rapport à la maison aussi, c'est aussi nos animaux. Il y a vraiment une folie des pets, hein, des animaux domestiques, comme disent nos amis anglais.
Exactement. Avec le confinement, il y a eu une adoption qui a explosé sur les animaux domestiques, donc, que ce soit dans les pays développés, même en Chine. Et donc, il y a à la fois un besoin de les nourrir. Et là, il y a une premiumisation de la nourriture pour animaux domestiques, de les soigner. Et mine de rien, les animaux vivent de plus en plus longtemps. Et donc là aussi, ça a été un marché qui a boomé. Et également, bien sûr, le e-commerce pour les produits pour les animaux. Et donc là, par exemple, on peut citer l'Allemand, Zooplus, qui est le numéro 1 européen des ventes en ligne de produits pour animaux domestiques.
C'est le Amazon des produits animaliers. Hein.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé dans nos loisirs cette fois? Est-ce qu'on voit des nouvelles tendances à apparaître post-confinement ou post-pandémie?
Alors, tout à fait. Si je peux tempérer un tout petit peu ce qu'a dit Claudia, alors il y a encore un appétit pour le voyage, mais par contre beaucoup moins pour les voyages lointains. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le trafic domestique versus trafic international, il y a un écart qui est substantiel. Alors il y a aussi bien sûr les restrictions qui jouent, parce que bien sûr tous les pays n'ont pas la même politique, mais là il y a une préférence pour ce qui est domestique ou régional, et même du logement, on va dire en location, plutôt que l'hôtel. Donc là il y a un changement de comportement. C'est loin des villes et également, par exemple, de types de voyages où il y a beaucoup de monde, comme les croisières, qui sont justement les moins recherchés par les consommateurs.
Mmh. Justement, on va se demander si ces changements sont en lien aussi, en phase avec la nécessité des transitions. On a l'impression, vous le disiez, Claudia Sénic, que le monde d'après, il ressemble furieusement au monde d'avant. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vont être modifiées? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui a été faite par nos concitoyens?
Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Mais après, les individus, en tant que tels, sont clivés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de chacun qui a envie de faire quelque chose pour ralentir le réchauffement climatique, préserver l'environnement, les générations futures, etc. Et sincèrement. Et puis il y a une autre partie qui est complètement court-termiste et qui pense à son bien-être. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on est enfermé, donc maintenant on va voyager. Mmh. Et donc là, les changements, ils ne vont pas être permanents s'il n'y a pas quelque chose de plus grand que l'individu qui les impulse ou qui les contraint à savoir soit l'entreprise elle-même, soit la réglementation publique.
Ouais, et puis la conscience des risques aussi, peut-être, au premier chef, environnemental, on l'a vu, on le voit toujours, avec des crises de plus en plus dures, le risque sanitaire, et puis en troisième position, les risques sociaux aussi, puisqu'on voit que les inégalités progressent. Est-ce que là aussi, on voit des observations que vous faites, peut-être?
Ce que j'ai vu dans des enquêtes, ce qui m'a étonné, c'est que parmi les risques et les menaces que les gens classaient en haut de leur, en haut de leur propre perception, il y avait un thème nouveau qui est celui des personnes âgées. Donc vraiment là, enfin, cette idée du quatrième pilier de la sécurité sociale, que faire pour l'assistance, l'aide au quatrième âge, aux personnes âgées, quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Mmh. Plus que les inégalités générales, quelque chose de...
Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le bien-être, hein, dans la définition, c'est un bien-être personnel, mais finalement c'est dur d'être très heureux si tout le monde est malheureux autour de soi. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi que le bien-être passe par le collectif ?
Oui, c'est ce que je disais au début, je pense que les gens ont pris conscience davantage de l'interdépendance et du fait que, par exemple, la santé, c'est un bien public. On parle de politique de santé publique. Mmh. Donc, voilà, pour l'instant, c'est assez vif dans l'esprit des gens. J'espère que ça va rester.
Notamment avec tous ces débats, évidemment, sur la vaccination collective, faire barrière au virus. Et on sait que ça passe, évidemment, par une réponse globale hein, pour tout le monde. Karen, on va terminer avec vous. Évidemment, vous êtes, au premier rang de ce qui se passe dans l'économie, dans les sociétés qui s'adaptent en permanence. Certains ont tiré leur épingle du jeu, d'autres, malheureusement, c'était plus compliqué. Comment, si on veut suivre cette tendance ou ces tendances qui sont en train de voir le jour, comment on fait ? Est-ce qu'il y a un fonds sur lequel on peut investir en particulier ?
Donc chez Ecofi, il y a un fonds sur les petites et moyennes CAPI qui s'appelle Ecofi Avenir Plus, qui est un moyen, donc sur un fonds un peu généraliste, mais d'être investi sur la thématique justement de la réouverture et finalement du bien-être sur lesquels donc, le fonds est positionné. On a cité tout à l'heure Husqvarna, mais lorsqu'on parle même du confort à la maison, donc très rapidement, il y a aussi Somfy, donc les stores... Donc ça aussi c'est très important, la domotique. Donc un confort chez soi, c'est, lorsqu'on travaille, c'est aussi d'avoir une immunité qui est parfaite. On parlait des loisirs, donc aussi un groupe français comme Compagnie des Alpes, donc les domaines de ski et les parcs de loisirs. Là aussi c'est un véritable justement vecteur de bien-être post-Covid. Je l'espère, post-Covid, aujourd'hui, on voit que les chiffres sont plutôt bons. Et donc l'appétit d'ailleurs pour la montagne devrait être beaucoup moins saisonnier dans cette ère post-Covid, donc moins focalisé sur l'hiver, par exemple. Donc ce genre de support se trouve à l'intérieur du fonds, et donc c'était un moyen, on va dire, un fonds de portefeuille qui permet de se positionner en partie sur le thème du bien-être.
Et Ecofi Avenir Plus, petite et moyenne capitalisation, voilà, qui en plus, on le voit en poupe en ce moment, c'est vrai qu'il y a un rattrapage pratiquement inespéré sur ces fonds. Et ben, on en sait un petit peu plus sur cette thématique. Un grand merci à nos spécialistes. Merci Claudia Sénic.
Merci à vous.
Professeur d'économie de la Sorbonne, directrice de l'Observatoire du Bien-être. Merci Karen George.
Merci à vous.
Action Ecofi. Merci Morgan Kiné d'Ecofi. Un grand merci à Mathilde Salama qui a préparé cette émission, à la technique Jason Pignero. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Agir pour le futur.
Agir pour le futur, le magazine de l'impact proposé par Ecofi, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming. We'll be right back.